Et pour une dernière fois cette saison, on retrouve Olivier Beauregard pour parler sport. Olivier, bonjour!
Salut!
On commence aujourd'hui en revenant sur la Formule 1 en fin de semaine à Montréal, que tu qualifies de fiasco.
Ben écoute, je suis pas le seul, là. Si tu écoutes un peu ce qui se passe dans le monde du sport, ça a été véritablement un fiasco. La façon que la ville de Montréal a géré ce Grand Prix-là, ça a fait la une, ça a fait la manchette, tellement que ça a fait réagir Stefano Domenicali, qui est le président de la Formule 1. Lui, là, il a présenté ses excuses, Sébastien, à la suite de cette édition-là à Montréal. Il a présenté ses excuses à tous les chefs des écuries de son circuit pour tous les problèmes qui sont survenus au Grand Prix du Canada. Écoute, c'est jamais vu, là. On n'a jamais vu ça, une sortie publique du président de la Formule 1 pour dire, écoutez, l'événement de cette année, honnêtement, ça a été un fiasco. Je vous donne un peu les détails, là, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé. C'est qu'entre autres, premièrement, il y avait beaucoup, beaucoup trop de gens présents dans le stade. Il y a eu une mauvaise... sur la piste.
Sur les gradins, là, oui.
Ouais, il y a vraiment eu une mauvaise gestion, tellement que lors du tour d'honneur de Max Verstappen, eh ben il y a des partisans qui sont embarqués directement sur la piste. On a saccagé des pancartes, on a embarqué sur la piste alors que Max Verstappen était, lui, en train de faire son tour d'honneur, ce qui a été évidemment un élément très dangereux puis qui n'a pas été apprécié de la Formule 1. On se demandait où était la gestion derrière ça. Mais ça va plus loin que ça, Sébastien. Ça va tellement que on a décidé du côté de la police de Montréal d'annuler l'événement sans même que le Grand Prix l'annonce officiellement en raison des pluies. On a renvoyé tout le monde à la maison pour dire aux gens, ben là, vous pouvez revenir, là, le Grand Prix va avoir lieu. Puis là, les gens disaient, ben on vient de se faire dire partout où ce qu'on marchait qu'on pouvait pas se rendre sur le site. En tout cas, il y a tellement une mauvaise communication, puis j'ose même pas parler de tout ce qui est événement touristique derrière ça. Écoute, il y a des bars, des terrasses qui ont été obligées de fermer parce que les policiers de la ville de Montréal se sont promenés en disant, écoutez, on ne respectait pas les normes de sécurité, on doit fermer ça. Tout ça pour dire que ça a été un fiasco. Un fiasco qui va malheureusement entacher le Grand Prix du Canada, puis peut-être mettre même disons, on va porter une réflexion sur la tenue du Grand Prix à Montréal parce que, écoute, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Il y a de l'équipement technique, Sébastien, qui a été endommagé du côté des écuries parce que les pluies abondantes ont fait en sorte qu'ils ont réussi à pénétrer justement là, dans les stations ou dans les loges où les équipes techniques étaient situées.
C'est neuf, on le rappelle, ça a été refait il y a quelques années. Là. C'est pas des vieux bâtiments, là. Ça a été rénové à grands frais, ça, là.
Exact, mais c'est comme si on n'était pas prêt à ça. Tu sais, pas gérer des intempéries quand la police de Montréal qui dit un certain message, puis qui n'est pas véhiculé par le Grand Prix de la Formule 1, ça fait pas sérieux. Non, honnêtement, c'est comme si on avait été pris au dépourvu. Écoute, Valérie Plante a essayé de se défendre. Je vous invite à écouter l'entrevue qu'elle a donnée à Paul Arcand. C'est honnêtement une catastrophe, parce que là, elle dit, bon, on va aller chercher des réponses, etc., qu'est-ce qui s'est passé. Mais comment se fait-il que ces réponses-là, on les a pas déjà? Parce qu'honnêtement, si la ville de Montréal... Et si, au fait de l'importance du Grand Prix du Canada, puisque de cette retombée économique qu'il y a derrière ça, si elle est aussi au fait de ça, tu t'assures que ce soit un élément qui fonctionne. Puis dès qu'il y a un petit raté, tu le règles au plus sacrant. Écoute, lundi, on n'était même pas capable de dire qu'est-ce qui s'était passé, évidemment. Puis je vais te dire, ça va plus loin que ça. La ministre responsable du tourisme du Québec a dit qu'elle était gênée de la façon dont ça a été géré du côté du Grand Prix du Canada et qu'elle va demander des comptes à la ville de Montréal, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il qu'on n'a pas été prêt. Ça fait en sorte que ça relance le débat, Sébastien, aujourd'hui, sur est-ce que Montréal est une ville de sport? Puis je te dis ça parce que la tenue d'événements comme ça, ça arrive une fois par année. Et quand cet événement-là se tient, c'est des heures et des heures de préparation. Évidemment qu'il peut y avoir certains éléments qui nous ont échappé. Mais là, c'est plus que ça, là. Là, c'est comme s'il y avait eu de la non-gérance ou qu'il y avait eu de l'ingérence plutôt par rapport à tout ce qu'il y avait alentour de cet événement-là. Pour les commerçants, pour les travailleurs, les restaurateurs, là, c'est des week-ends tellement importants au niveau de leurs revenus qu'on décide par la Ville de Montréal de fermer des terrasses puis d'interdire les gens, justement, de fréquenter des endroits publics parce qu'on dit que c'est pas sécuritaire. Comment se fait-il que ces normes-là n'avaient pas été mentionnées avant? Comment se fait-il qu'on n'a pas été en mesure de dire, ben, savez-vous quoi, il va y avoir beaucoup trop de monde? Ça se peut qu'on soit obligé à un moment donné d'opérer puis d'interdire certains endroits, certains espaces publics. Comment se fait-il qu'on n'était pas prêt pour ça? Moi, c'est ça qui me dérange, parce que les policiers puis les pompiers de Montréal sont débarqués dans des bars, dans des terrasses, le vendredi soir, pendant que c'était chaud, là, le Grand Prix débutait, puis on a dit, vous êtes fermé pour le week-end, il y a trop de gens, votre chapiteau extérieur prend trop de place. Écoute, ça n'a aucun bon sens, c'est de l'ingérence, puis ça, ça fait mal aux restaurateurs de ta ville, aux restaurateurs qui essaient de se relever de cette fameuse pandémie-là, puis là, tu es en train de leur mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est un élément, mais après ça, tout ce qui est au niveau de la piste, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont réussi à y avoir accès? Mm-hmm. Pourquoi il y a des gens qui étaient rendus sur la piste pendant qu'il y avait une voiture qui circulait? Comment se fait-il qu'on a laissé rentrer trop de personnes dans le stade? Comment se fait-il qu'on a repoussé les partisans à rentrer parce qu'il pleuvait? Je veux dire, c'est au Québec, là. Dame Nature a fait des siennes régulièrement. Faut être prêt à toutes ces éventualités-là. Comment se fait-il qu'au niveau de l'organisation, on n'était pas en mesure de faire, mais savez-vous quoi, pendant la période des intempéries, là, on va vous mettre dans un endroit où on va vous demander de quitter, mais vous allez revenir par la suite. Écoute, ça fait pas sérieux, ça fait n'importe quoi. Et honnêtement, c'est une grande déception. Puis à l'échelle planétaire, là.
Oui, c'est la réputation,
disons,
là.
Ben, disons qu'on la note que du Grand Prix du Canada qu'elle reçoit présentement, c'est une note très inférieure à la note de passage. Donc, écoute, c'est malheureux, c'est une catastrophe même que je te dirais. Puis ça pourrait nuire à la tenue du Grand Prix du Canada si on décide du côté de la F1 de dire, écoutez, ça fait pas sérieux, on peut pas revivre un événement comme ça. Ben, on annule, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là. Je veux dire, dans cette optique-là, c'est pratiquement une faveur que la F1 fait à Montréal, là, en disant, ben, c'est vous qu'on a choisi pour tenir le Grand Prix du Canada. Mais il y a des villes qui seraient capables de le faire, puis il y a peut-être des villes qui seraient encore plus installées pour les faire, ou en tout cas, disons, mieux préparées pour le faire. Mm-hmm. Et puis là, comme je te disais, tu sais, ça relance un débat. Est-ce qu'on est une ville de grands événements du côté de Montréal? Est-ce qu'on est capable de recevoir des événements d'envergure, des événements majeurs? Ben, juste un événement comme ça, ça jette un ombrage. Il va y avoir la tenue de la Coupe des Quatre Nations quand on va se reparler là, en septembre prochain, là, le nouveau tournoi de la Ligue nationale. Mais dites-vous une chose, là, ça se peut très bien que la Ligue nationale ait jeté un œil puis on les a avertis en disant « on ne peut pas faire de raté, on ne peut pas se planter ». Mais au Québec, le hockey, généralement, on est capable de bien s'en sortir. Mais si tu veux être une ville considérée sérieuse au niveau du sport puis au niveau du tourisme, faut que tu sois capable de respecter et de offrir la meilleure qualité possible à tous les événements d'envergure qui peuvent se tenir dans ta ville.
On va surveiller ça pour ces autres événements-là. Sinon, ben, comme c'est la dernière de l'été, Olivier, on va regarder un peu vers les prochains mois. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la LNH, hein, sur le marché des transactions, tant pour le Canadien que les Sénateurs? Là, on a peut-être des listes de souhaits, on a peut-être des choses qu'on souhaite accomplir pendant l'été ou des joueurs à aller chercher. Là.
Ben, absolument. Puis du côté des Sénateurs d'Ottawa, je commence avec eux, mais pour moi, puis je l'ai dit toute la saison, Sébastien, ils sont pas loin d'avoir une équipe qui peut renverser la vapeur, une équipe qui peut être compétitive. Tu sais, le talent, ça leur sort par le nez. C'est d'être capable de générer un petit peu et de mettre ça tout ensemble. Est-ce que Travis Green, qui a été engagé comme entraîneur-chef récemment avec les Sénateurs, c'est le bon candidat? Je ne sais pas. Je peux pas te le dire. Mm-hmm. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais une chose qui est certaine, tu as Jonas Korpisalo à qui tu as donné plus de 4 millions de dollars par saison pour devenir ton gardien qui n'a pas fait le travail. Le point d'interrogation chez les Sénateurs depuis plusieurs saisons, c'est justement devant le filet, qui va pouvoir remplir ce rôle-là, parce que c'est un rôle qui est primordial pour l'équipe au courant des prochaines années, je te dirais même dès l'an prochain. Et là, il y a des rumeurs. Est-ce que Jacob Markstrom, qui était à Calgary, pourrait s'en venir? Écoute, lui aussi, c'est un point d'interrogation. Là, il a connu vraiment un bon moment avec les Canucks de Vancouver. Il arrive à Calgary, ça fait pouet-pouet, il n'y a plus rien qui marche. Sauf que Travis Green le connaît quand même un peu. Et je te dirais même que Steve Staios, le nouveau directeur général, l'a côtoyé avec Calgary. Donc, est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on pense qu'on peut relancer sa carrière? Si oui, tant mieux. Si on veut aller chercher, tant mieux. Sauf que comment tu te débarrasses maintenant du contrat de Jonas Korpisalo? C'est peut-être là que ça va un petit peu avoir un clash, là, si tu veux, parce qu'il faut régler ce problème-là également. Alors ça, c'est un dossier pour moi qui va être chaud chez les Sénateurs. Qu'est-ce qui se passe devant le filet en vue de la prochaine saison? Et également au niveau de la défensive, c'est une jeune brigade défensive. Oui, Thomas Chabot qui est là depuis longtemps. Chipron, il est là dans la Ligue depuis longtemps, mais c'est des défenseurs qui se ressemblent énormément. La seule valeur sûre pour moi chez les Sénateurs, c'est Jake Sanderson, qui pour moi est le meilleur défenseur de cette organisation-là. Après ça, il faut que tu bâtis, il faut que tu amènes des vétérans. À la David Savard, tu sais, des vétérans qui t'amènent une certaine stabilité, qui t'amènent une certaine aussi profondeur et surtout de l'expérience. C'est ce qu'on n'a pas chez les Sénateurs et ça a fait mal. Par la suite, mais là, c'est à te voir à l'attaque, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense qu'on a beaucoup d'éléments clés. Maintenant, c'est d'être capable de tout rabouter ça ensemble, Sébastien, pour que ça fonctionne, puis que ça nous donne une équipe qui est capable de compétitionner pour la Coupe Stanley. Du côté de Montréal, écoute, c'est farfelu ce qui se passe à l'heure actuelle. Là, il y a beaucoup le dossier de Martin Nikache qu'on entend énormément, là, cet attaquant-là qui évolue avec les Hurricanes de la Caroline, lui qui devient agent libre. Beaucoup de gens qui disent que les Canadiens seraient intéressés à ses services. Mais à ce niveau-là, t'échanges qui? sais, tu vas pas donner un Mike Matheson. Tout le monde dit oui, là, oui, faut transiger Mike Matheson. Écoutez, là, tu règles pas un problème en créant un autre. Et Mike Matheson est ton pivot à la défensive, c'est ton général. Moi, je comprends pas qu'il y ait des gens qui sont d'accord. Et écoute, je regardais un sondage qui a été fait récemment par rapport à ça, et on demandait aux gens, êtes-vous prêts à échanger Mike Matheson pour aller chercher un Martin Mikash? Et les gens, à plus de 70%, Sébastien, ont dit oui. Okay. À Montréal, on s'emballe, là, c'est beau marquer des buts, mais à un moment donné, il faut être capable de défendre notre territoire. Puis moi, je pense que Mike Matheson, c'est pas un gars qui fait partie du problème, c'est un gars qui fait partie de la solution. Puis si tu veux que cette équipe-là demeure compétitive, t'as absolument besoin de Mike Matheson dans ta formation. Bref, ça va être intéressant. Je l'écoutais récemment dans un podcast, puis il disait qu'il était au fait de ces spéculations-là, que lui, son désir, c'est de rester à Montréal. Mais tu sais, tu donnes ça dans la tête d'un gars qui a tout donné, qui vient de connaître une saison incroyable, puis il fait quand même partie de rumeurs d'échange. C'est quoi le message qu'on envoie à ce gars-là?
C'est ordinaire.
Au niveau des partisans, ouais, exact, c'est ordinaire. Tu sais, le message que les partisans envoient à ce gars-là, c'est « Ben écoute, merci pour la saison, mais nous autres, on est prêts à t'échanger contre 2,30 sous demain matin. » Non, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, j'espère que du côté du Canadien de Montréal, on peut bouger, là, mais faut pas créer un problème en tentant d'en régler un autre, parce que, honnêtement, l'attaque du Canadien de Montréal, pour moi, est pas loin d'être très compétitive. Il y a encore du travail à faire, il y a peut-être des petits rabouts à aller chercher. Mais Martin Nekas, là, c'est un gars qui jouait même pas sur l'avantage numérique en Caroline, c'est un gars qui jouait sur le troisième trio. Puis là, tu veux l'échanger contre ton défenseur numéro un qui joue sur ton premier power play, qui est ton général à l'attaque, puis c'est ton meilleur patineur chez les arrières. Honnêtement, ce serait une très grosse gaffe, selon moi.
On dirait qu'il n'a pas fait le même résumé que t'en fais. Mais bon, on verra.
Ben, chacun sa lecture du jeu. Hein?
C'est sûr. Puis sinon, tu veux revenir aussi là, sur cette soirée qui a eu lieu là, hier pour Tom Brady chez les Patriots. Donc, une intronisation au temple de la renommée des Patriots.
Écoute, c'est une soirée légendaire qui s'est passée hier à Foxborough. Je pense que ça allait de soi que Tom Brady allait se retirer en tant que Patriots de la Nouvelle-Angleterre officiellement. Ça a été fait hier. Il a été intronisé au temple de la renommée des Patriots à Foxborough devant, écoute ça, là, 60 000 personnes dans le stade Gillette. C'est complètement incroyable. Ça a été une soirée à tous les niveaux, là, fantastique. Il y a eu même certains moments où c'était loufoque, tu sais, parce que Tom Brady est parti, puis tout le monde disait Tom Brady et son ancien entraîneur-chef, M. Belichick, étaient peut-être justement en certaines confrontations, ce qui aurait poussé Tom Brady à vouloir s'en aller avec Tampa Bay. Et Belichick est arrivé hier, a serré la main, grosse caresse. Il a parlé justement de cette relation entre lui et Tom qui durait depuis plusieurs décennies. C'était devenu inévitable en 2020 là, qu'il y ait une rupture entre ces deux clans-là, parce que du côté des Patriots, il fallait tout de même continuer d'aller de l'avant, puis de grandir, puis de rebâtir cette équipe-là. Il en souffre encore d'ailleurs. Et du côté de Tom Brady, ben, c'était sa chance de remporter un autre championnat, puis c'est ce qu'il a fait avec les Bucks de Tampa Bay. Après ça, ben, tu sais, je tombe pas en bas de ma chaise, mais on a décidé du côté de Robert Kraft, le propriétaire, hier, on a décidé d'annoncer que officiellement le chandail numéro 12 de Tom Brady sera retiré à Foxborough. Je pense que, comme je te dis, ça allait de soi, là, c'est le meilleur corps arrière de l'histoire de l'équipe, puis probablement un des meilleurs, sinon le meilleur de l'histoire de la NFL. Alors, je pense que ça a été une belle soirée, une belle célébration. Puis là, j'espère que ça va taire les spéculations quant à un éventuel retour de Tom Brady, parce que il y a une semaine, Tom Brady disait dans un podcast, j'y songe encore. Hey, là,
il faut décrocher, là, ouais, c'est ça.
Tu sais, profite de ton argent, profite de ton temps, puis assure-toi, tu sais, de pas trop écœurer le monde avec le fait que tu penses à revenir, parce qu'honnêtement, je l'ai dit souvent à notre antenne, mais de revenir dans des conditions qui sont pas toujours idéales, des fois, ça fait qu'on peut se rappeler d'une belle carrière, mais la fin peut faire pouet-pouet. C'est pas ça qu'on veut dans un gars comme Tom Brady qui a réalisé tellement de belles choses au niveau de la NFL. Moi, je lui souhaite juste de maintenant profiter de la retraite, penser à lui, puis peut-être un jour revenir dans une organisation en tant que consultant, en tant que directeur général, peut-être même, qui sait, en tant qu'entraîneur des corps arrière, ça, c'est pas impossible. Mais bref, belle soirée à Foxborough, puis je suis content. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent, puis on le sent tout l'amour que cette ville-là a pour lui. Je pense que la Nouvelle-Angleterre va se souvenir de Tom Brady. Il va faire partie des immortels pour le restant de nos jours, là, c'est sûr et certain.
Absolument. Puis là, en terminant très, très rapidement, parce que le temps nous manque, Olivier, là, juste revenir sur les séries de la LNH, là, parce qu'il y a un match ce soir. Les Panthers mènent 2-0 jusqu'à maintenant. Ta prédiction, est-ce que tu te lances là-dedans?
Ben écoute, là, les auditeurs vont dire, ben oui, c'est facile de faire une prédiction quand la série a déjà commencé.
Ben oui, quand même, faut jeter un regard quand même, là.
Ben écoute, je suis un peu partagé parce qu'il y a une équipe canadienne qui est en jeu, puis j'aimerais tellement ça que la Coupe Stanley revienne au Canada. Mais moi, les Panthers, j'adore comment cette équipe-là a été bâtie, la philosophie derrière cette équipe-là. Je trouve qu'on fait un travail exceptionnel avec l'organisation des Panthers. sont durs à jouer, sont physiques, sont de tous les instants, de tous les combats. Moi, je pense vraiment que ça va être très difficile. Je pense qu'Edmonton va être capable d'en remporter un à domicile, là, mais je pense que ça va se terminer au match numéro 5 en Floride à Sunrise. C'est mon humble avis, puis je pense que ça va être très, très dur de tourner la vapeur, surtout que là, on parle de plus en plus de situations de blessés. Il y a Daniel Nurse qui serait blessé du côté des Oilers d'Edmonton. Sa présence pour ce soir est incertaine. Evander Kane qui a quitté l'entraînement ce matin, qui lui aussi ne va pas très bien. Alors, on va voir. Liam Draisaitl et Connor McDavid doivent en donner plus. Là. Je pense que si j'étais l'entraîneur-chef, j'essaierais de les réunir lors du prochain match, le match de ce soir, puis de m'assurer qu'on essaie de chercher un déclic. Écoute, c'est pas compliqué. Edmonton a marqué un seul but depuis le début de cette série-là. C'est vraiment pas suffisant si tu veux être capable de gagner la Coupe au final. Mais la bonne nouvelle, Sébastien, c'est qu'à Edmonton, on n'a pas perdu un match à domicile depuis le début des séries. Mm-hmm. Ça peut faire renverser la vapeur. Mais du côté des Panthers de la Floride, écoute, comme je te dis, une équipe tellement bien bâtie, une équipe qui joue tellement bien. Tu sais, il y a plein de joueurs obscurs que je pourrais vous parler pendant longtemps. Mais tu sais, Forsling à la défense, c'est pas un gars qui est considéré comme un grand défenseur. Puis pourtant, c'est lui qui a la mission d'arrêter Connor McDavid. C'est une très, très belle équipe de hockey. Puis je vais vous dire une chose, par exemple, ce que je joue en faveur des Oilers et contre les Panthers. Hier, en Floride, on a décidé de quitter après l'entraînement matinal pour Edmonton. C'est un vol de plus de... en tout cas, là, je ne veux pas me tromper, là, mais on dit que c'est plus de 8 heures de vol. Là. Puis, écoute, Sébastien, ils ont été prêts à l'aéroport toute la journée. L'avion ne pouvait pas décoller en raison des pluies intenses à Fort Lauderdale. Ça a fait en sorte qu'on a été bouclés dans un aéroport tout au long de la journée. Ils sont arrivés très, très tard, me dit-on, à Edmonton. Puis, je te dis tard, ça peut être tôt pour certains, là, parce qu'ils sont arrivés aux petites heures de la nuit. Honnêtement, ça pourrait jouer dans le match de ce soir. Mais encore là, moi, j'ai pleinement confiance à la façon que cette équipe-là est dirigée. Je vois vraiment pas comment les Panthers de la Caroline, je pense encore à NFL, mais les Panthers de la Floride ne remporteront pas la Coupe Stanley cette année. C'est mon petit 2 piastres à mettre, les Panthers en 5.
Ben voilà, Olivier Beauregard, un grand merci pour ton précieux temps chaque semaine cette saison, puis je te souhaite un très bel été.
Hey, c'est un plaisir renouvelé, puis je vous souhaite un bel été à tous. Profitez du soleil, puis profitez du repos. Surtout toi, Sébastien. Je pense que c'est dur pour une couple de semaines de vacances.
Ça s'en vient.
Merci,
beaucoup.
Merci, mon ami.
Salut.